Santé.
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 C'est bon pour la santé.
Faire du sport.
C'est bon pour la santé.
Les carottes.
C'est bon pour la santé.
Boire. Rire.
Bien dormir.
Bouger. Faire de l'exercice.
C'est bon pour la santé.
Puis on vieillit bien à part de ça.
Manger des fruits.
Mangiamo le spaghetti.
Une ou deux gorgées d'eau toutes les heures.
C'est meilleur pour la santé, oui.
Bon début d'après-midi, j'espère que vous allez bien. C'est Marianne Paquette au micro pour les 30 prochaines minutes. C'est bon pour la santé sur Canal M. Chaque semaine, enfin non, c'est pas vrai, pas chaque semaine, chaque mois, faut pas être non plus trop enthousiaste. Chaque mois, elle sera là, Sophie Allard, elle qui est journaliste à La Presse, rattachée à la section santé du quotidien La Presse. Donc, elle sera là pour nous faire un retour des articles les plus marquants des dernières semaines, les articles qu'elle a publiés et écrit dans le quotidien La Presse. Cette semaine, elle revient sur ces deux articles miracles en vue pour les insomniactes et également les cafés, la mort autour d'un café, les cafés de la mort. Donc, on posera cette question-là à Sophie Allard. La mélatonine qui est vendue en comprimé en vente libre, est-elle vraiment une hormone miracle pour les gens insomniaques? Et également ces cafés mortels qui ont vraiment pris une ampleur mondiale, qui est un endroit d'échange autour de la mort, bien, qu'est-ce que c'est réellement? Mais en première partie d'émission, ils sont une façon d'exprimer notre humeur du jour, l'endroit où l'on se trouve ou avec qui on est. Les selfies, est-ce qu'ils peuvent avoir un impact sur notre santé mentale? On en discute avec Jessie Riel, elle qui est intervenante à l'Alpabem. Autoportrait qu'on peut prendre soit seul ou en groupe, qu'on publie de façon assez rapide, assez instantanée sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Twitter, Instagram. C'est un phénomène qui peut-être vous touche vos ados, en fait, ça touche autant les plus jeunes que les plus âgés. C'est devenu à la fois un mode d'expression, mais comment on fait pour pas se perdre, pour pas exagérer, pour tenter de garder un équilibre dans justement cette façon de s'exprimer-là? On va tenter de se dépatouiller à travers tout ça avec Jessie Riel, elle qui est intervenante à l'Alpabem et également l'auteur d'un article qui est publié dans la revue L'Oxygène, Les égaux portraits ou les selfies, symptômes d'un dysfonctionnement cognitif. Merci d'être là, Jessie.
Bien, merci beaucoup de m'avoir invitée et de me faire participer à ma première expérience radio.
Ah, je suis certaine que ça va bien aller. Les selfies, bon, on sait à peu près de quoi il est question quand on parle de selfies. Qu'est-ce que ça nous fait ressentir de façon générale, les selfies? Vous y êtes attardée, donc votre petite idée là-dessus?
Oui, bien tout à fait. En fait, quand on prend une photo, une selfie, puis qu'on la regarde ou qu'on la publie, ça nous permet de nous sentir vivants, puis réels. Parfois, ça peut nous permettre de mieux s'apprécier, de s'aimer davantage, de prendre un instant pour se regarder, s'apprécier tel que l'on est. Donc, ça nous permet de nous voir vraiment d'un œil extérieur, comme que les autres nous perçoivent.
Comme les autres nous perçoivent, mais pas toujours, parce que souvent, on est à notre mieux, on veut être à notre mieux sur les selfies, c'est-à-dire bien coiffé, bien maquillé, dans la meilleure position. C'est pas nécessairement comme ça à quoi on ressemble le matin, on ressemble pas à ça, là.
Oui, quand même. Dans le fond, on va y revenir un peu plus tard, mais exactement, c'est qu'on on projette l'image que l'on veut projeter.
Donc, on a un contrôle là-dessus. On devient
exactement
le sujet de la photo, en même temps l'auteur. On a vraiment les deux facettes et un grand contrôle de notre image. Pourquoi c'est si attrayant? Parce qu'en fait, le but du selfie, c'est oui, bien sûr, de prendre un autoportrait de soi-même, mais on ne le garde pas pour soi. Le concept, c'est de le publier le plus rapidement possible sur les médias, les médias sociaux, les réseaux sociaux. Pourquoi c'est si attrayant de le faire?
Bien d'abord, de publier nos photos sur les médias sociaux, ça nous permet de couper la distance physique avec les autres. Ça nous permet de nous rapprocher d'eux, même s'ils sont à des kilomètres de nous. Donc, ça nous donne une impression de proximité avec l'autre. Puis, on a l'impression d'être en contact avec sa réalité. Donc, comme si l'autre est en contact avec notre réalité également. Donc, parfois, on peut avoir l'impression de mieux comprendre l'autre. Puis, comme qu'il y a l'exemple... pas l'exemple, mais l'expression qui dit « une image vaut mille mots »,
ouais.
Mais en fait, c'est vrai. On peut Ça nous permet de vraiment bien exprimer notre une émotion, un événement, de partager un moment clé de notre journée de façon super simple.
Très rapide.
Exactement.
Est-ce que ça peut être également une façon de se gonfler un petit peu l'ego, une journée où ça se passe un peu moins bien, on se met joli, on s'habille bien, on se retrouve dans un endroit qu'on aime, on prend cet autoportrait-là ou égo-portrait, et puis là, soudainement, ben, on met ça, par exemple, sur notre profil Facebook, et là, on a des « j'aime », hein, on sait le petit clic là, de nos amis qui apprécient cette photo-là, et là, soudainement, on se sent mieux, moins seul, accompagné.
Bien, justement, tout à fait. C'est très bon pour l'ego, souvent, d'avoir une foule de commentaires ou plusieurs clics « j'aime » sur nos photos. Donc, ça peut être très valorisant. Ça vient nous combler un petit vide ou ça vient nous donner un petit plus dans notre journée. Mais par contre, à l'opposé, on peut être également à risque de recevoir des commentaires négatifs. Mm-hmm. Donc, c'est un peu un couteau à deux tranchants auquel il faut faire attention. Donc, il y a des pour et il y a des contre.
Est-ce qu'il y en a d'autres pour des selfies?
Bien, comme que ça flatte l'ego, c'est sûr que ça peut venir augmenter notre estime de soi. Donc, on peut se sentir davantage apprécié. Donc, c'est bon pour notre estime, notre morale. Ça nous met en contact avec beaucoup plus de gens. Mm-hmm. Ça peut venir briser notre isolement. Bien, pas notre isolement, mais notre sentiment, des fois, d'être un peu plus seul.
Ouais. Donc, la solitude.
Oui, c'est ça. Il y a plusieurs avantages, mais à l'opposé, il y a également des conséquences auxquelles ça peut nous amener.
Quelles sont-elles, ces conséquences-là?
Donc, bien sûr, ça peut nous amener à développer peut-être un peu trop notre côté narcissique. Si on prend plusieurs photos, puis on a l'habitude de trop apprécier notre image. Mais également, à l'opposé, si on n'aime pas l'image qui est projetée, on peut avoir tendance à vouloir la modifier, cette image-là. Donc, avoir tendance à la perfectionner tout le temps, à utiliser Photoshop ou toujours en prendre une meilleure, tenter de tout contrôler. Il y a également les personnes qui vont abuser des selfies et des publications sur les réseaux sociaux.
Ouais.
Ça peut être des choses qui sont irritantes pour l'entourage. Puis, il y a aussi, il peut y avoir une perte d'équilibre, en fait, dans nos actions. Puis, dernier point que je rajouterais, c'est de ne pas être conscient de l'image qu'on va projeter.
Ouais,
à
ouais, ouais.
Donc, ça, c'est un point là, qui joue pour beaucoup.
Il n'y aurait pas aussi... Le fait que les selfies, les égo-portraits, peut-être pas dans tous les cas, mais sont souvent associés à une image un petit peu plus hyper-sexualisée, sexualisée également, et de frayer avec cette identité-là qui n'est peut-être pas la nôtre à la base, mais qu'on a envie de projeter, de véhiculer.
Oui, bien en fait, au niveau de l'hyper-sexualisation et des selfies, je dirais que c'est quand même directement lié. Je ne peux pas dire lequel déclenche l'autre, mais il y a directement une influence. Et je trouve que ça accentue le phénomène de l'hypersexualisation, dans le sens où on tente de correspondre aux images qui sont véhiculées par les médias, la publicité, les artistes, les films. Donc, dans ce sens-là, je trouve qu'on vient un peu envoyer un message qu'on accepte ces images-là en les reproduisant, en tentant de ressembler à ce qui nous est présenté, mais qui, en fait...
Mais en même temps, il y a certains mannequins issus de l'industrie de la mode qui ont eu envie de renverser ce phénomène-là avec les ugly. Donc, les ugly qui sont aussi un autoportrait, mais où on se présente vraiment de façon plus naturelle, si on est décoiffé, pas maquillé, et qui donne accès, par exemple, on pense aux adolescents, qui donnent accès aux stars, mais de façon plus naturelle, avec bon, elles aussi, eux aussi, leurs imperfections. Est-ce que ça pourrait être un avantage?
Ben oui. Vous m'apprenez quelque chose au niveau des « ugly ». Je ne connaissais pas ce terme-là, mais c'est sûr que j'ai vu la vague de photos des journées sans maquillage sur Internet. Puis c'est quelque chose de très positif. Donc, je crois que oui, ça serait à faire de plus en plus. Là.
Je me demande aussi, Jesse Riel, si à un moment donné, il n'y a pas... un danger, peut-être que danger ou peut-être une précaution, le danger est un grand mot, à savoir si on ne s'identifie pas trop à l'image numérique, notre identité numérique, c'est-à-dire qu'on évolue dans la vie au quotidien de façon directe avec nos collègues, conjoints, conjointes, tout ça. Mais il y a cette identité-là qui se forge en parallèle sur les médias sociaux. Et si à un moment donné, ça peut arriver qu'on ne fasse plus la distinction.
Oui, je trouve que c'est l'identité numérique, c'est tellement facile à manipuler. On transmet ce que l'on veut là-dessus. On est en contact 24 heures sur 24 avec notre identité numérique, avec nos cellulaires, nos applications. Donc, je trouve qu'il y a un risque à ne plus faire la différence ou à trop tomber dans cette identité virtuelle-là. Donc, c'est tellement facile. Si une journée, on se sent triste, malheureux, seul, on peut faire transparaître à nos amis ce que l'on veut par nos égoportraits, donc avoir de l'air la personne la plus heureuse, la moins seule, la plus enthousiaste, quand en fait, c'est tout le contraire.
Et de peut-être modifier un petit peu cette réalité-là.
Puis il y a un côté aussi qui va nous rendre beaucoup plus attrayants dans le monde virtuel, puisqu'on projette que les côtés positifs que l'on veut. Donc le monde virtuel est très attrayant, mais il y a un risque là-dedans de ne pas s'y perdre.
Évidemment, quand je parlais de ce sujet-là, que j'avais le désir de l'aborder, les gens d'entrée de jeu me disaient « Ah, mais pour les ados, c'est vraiment un sujet parfait, ça va les interpeller. » Puis en même temps, en lisant davantage, et je le disais d'entrée de jeu, les adultes sont autant touchés par ce phénomène-là. Mais par contre, c'est vrai qu'on voit souvent des selfies qui circulent davantage du côté des adolescents. Comment on peut, en tant que parent, en tant qu'adulte signifiant, mieux les encadrer, mieux encadrer l'usage des médias sociaux, de la prise des selfies également, de cette image numérique qu'ils projettent énormément et qui est si facile de véhiculer finalement?
Exactement, c'est si facile de la véhiculer. Puis en tant que parent, bien, les parents ont le pouvoir d'instaurer certaines limites, certaines règles à la maison. Donc, c'est évident qu'on ne peut pas contrôler 24 heures sur 24 les publications de nos jeunes, mais du moins à la maison, par exemple, de refuser à l'enfant ou à l'adolescent qui ait son portable ou son cellulaire en chambre et qui utilise Internet dans un endroit public de la maison, peuvent être des formes de limites pour les conscientiser à ça. Donc, ne pas hésiter à leur parler des conséquences que ça peut avoir. Et bien sûr, de soi-même, en tant que parent, de projeter le bon exemple sur les réseaux sociaux.
Oui.
Donc, c'est évident.
Donc, c'est une façon de mieux les éduquer, nos ados.
Oui, tout à fait.
Donc, si je récapitule ce début de conversation-là, cette première partie d'entrevue, les selfies, ça a plein de côtés positifs. Ça a aussi quelques bémols. Il y a moyen d'encadrer ces petits côtés plus négatifs-là. Mais ça reste une activité qui est tout à fait saine, qui peut être même très agréable, une façon aussi de communiquer. Mais d'un autre côté, ça peut être lié à certains troubles de santé mentale ou du moins en indiquer quelques-unes. On parle de quoi quand on parle que les selfies peuvent être liés à des problèmes de santé mentale?
Bien, d'abord, à la base, ça peut susciter certains symptômes d'anxiété ou d'angoisse chez nous. Si on se met à publier plusieurs photos, plusieurs selfies, puis qu'on ne reçoit pas les commentaires qu'on aimerait ou le nombre de clics « j'aime » qu'on aimerait, mais ça peut-être nous faire vivre du rejet, des sentiments de colère, d'injustice, se sentir dévalorisé. Donc, tout ça peut nous rendre plus fragiles, et d'autant plus si on a déjà une prédisposition, une fragilité, dans le fond, psychique à ce niveau-là. Puis, à la longue, ça peut nous mener à une cyberdépendance.
Ouais, ouais.
Puis, il y a également les gens qui ont des troubles obsessionnels compulsifs ou une personnalité obsessionnelle compulsive qui peuvent se perdre avec cette obsession-là. Donc, en fait, la selfie peut devenir une obsession. Elle peut prendre tout notre espace et notre temps. Donc, on peut chercher à aller vraiment, vouloir toujours modifier, chercher la perfection de notre image. Puis, à ce niveau-là, mais aussi l'image du corps. Donc, les troubles de conduite alimentaire sont également à risque, donc anorexie, boulimie, ou pour ces personnes-là qui sont déjà anorexiques et boulimiques, ça peut être une activité qui va devenir davantage malsaine et plus nuire à leurs troubles. Également, depuis quelques années, on entend parler du trouble de dysmorphie corporelle,
ouais,
qui consiste en fait à ce que des femmes ou des hommes se voient trop maigres ou, ou trop gros quand que c'est le contraire et que souvent ils ont un poids idéal. Donc, l'ensemble de tout ça là, peut même voir amener à des symptômes dépressifs. Là.
C'est ça, c'est que l'égoportrait ou le selfie est un facteur, devenir un facteur de risque.
Oui.
Dans c'est pas mal en soi, mais ça peut devenir un facteur de risque dans l'énumération de ces différents troubles de santé mentale-là. Bien sûr, on reste toujours l'œil bien attentif sur nos enfants, nos adolescents qui utilisent un petit coup d'œil peut-être sur les téléphones intelligents, parce que ça passe par là, bien sûr, là, téléphone intelligent, tablette également, c'est la façon de prendre ces photos-là et par la suite de les diffuser sur les différents médias sociaux. Jessie Riel, si on veut en savoir davantage, eh bien, on peut lire votre article « Les égoportraits, selfies, symptômes d'un dysfonctionnement cognitif ». C'est une question qu'on posait aujourd'hui. On se rend compte que tout est dans l'équilibre et puis ça peut être tout à fait agréable de le faire. Il faut savoir ne pas plonger de l'autre versant.
Exactement. Comme dans tout, il faut savoir garder notre équilibre, comme dans l'alimentation, la famille, les sports, donc... Tout est une question d'équilibre et de savoir reconnaître quand on la perd. Là.
Je rappelle que vous êtes intervenante du côté de l'ALPABEM, www.alpabem.qc.ca. C'est un organisme qui soutient les familles et les proches de personnes souffrant d'une maladie mentale et qui publie une revue intitulée « L'oxygène », fort, fort, fort intéressante. Merci, Jessie Riel.
Ça me fait plaisir. Puis j'en profiterai, si je peux, pour rajouter, dans le fond, du 6 au 10 octobre, l'ALPABEM présente 5 conférences sur la santé mentale à la Cité de la Santé à Laval. Elles sont gratuites, donc vous pourrez aller voir notre programmation sur notre site Internet ou aller consulter également le 1-855 craquer si jamais vous avez un proche qui est atteint de maladie mentale.
Et de toute façon, on aura l'occasion d'en reparler parce que vous serez de retour le 6 octobre.
Oui, tout à fait.
Au plaisir.
Pour rejoindre Marianne Paquette et l'équipe de C'est bon pour la santé, dans la région de Montréal, 514-282-1999, poste 220, et sans frais ailleurs au Québec, 1-800-361-0635, et par courriel à mpaquette@commercialvusezvoix.com. Suivez-nous sur Facebook, / C'est bon pour la santé, et sur Twitter, @commercial_canal_m.
Bonjour Sophie Allain.
Bonjour.
Je rappelle que vous êtes journaliste rattachée à la section Santé du quotidien La Presse et vous serez là de façon mensuelle pour revenir sur des articles que vous avez publiés dans les semaines précédentes. Aujourd'hui, retour sur Miracle en vue pour les insomniaques, oui, ainsi que la mort autour d'un café. On commence par ce miracle prévu peut-être pour les insomniaques, c'est-à-dire la mélatonine.
Mm-hmm.
Alors qu'un adulte sur quatre, et ça c'est écrit dans votre article, déclare éprouver fréquemment de la difficulté à s'endormir ou à rester endormi.
Mm-hmm.
La mélatonine qui est vendue en comprimé, là, très facile d'accès,
oui,
en vente libre. On se demande, vous êtes demandé, est-ce que c'est sans danger? Est-ce que c'est efficace pour les gens qui ont des problèmes d'insomnie?
Oui, tout à fait, parce que justement, dans mon entourage, je voyais des gens qui en consommaient, et puis bon, certains me disaient « ça fonctionne pas du tout », d'autres disaient « oui, justement, c'est le petit comprimé miracle qui me fait dormir comme un bébé ». Donc, j'ai voulu faire le point parce que j'en savais pas trop là-dessus, et puis bon, ça pourrait peut-être me servir personnellement,
oui,
quand c'est des nuits plus difficiles. Donc, mais en fait, la mélatonine, c'est une hormone qui est sécrétée chez l'humain, chez les animaux aussi, et puis même chez certaines plantes. Alors, c'est une hormone qu'on appelle hormone du sommeil. Donc, c'est que, dans le fond, son rôle, c'est surtout de réguler le système, le cycle de veille-sommeil. Alors, on en produit donc naturellement, mais il se fait des comprimés en produits naturels.
Et elle est si populaire parce qu'on lui attribue plusieurs bienfaits.
Oui, c'est ça. c'est que, en fait, c'est ça, on l'appelle un peu l'hormone miracle.
Ouais.
Les fabricants ils parlent d'un effet rajeunissant, d'un pouvoir antioxydant, des propriétés antidépressives. On dit aussi que ça pourrait favoriser une meilleure santé cardiaque, booster le système immunitaire, puis aider à la lutte contre le cancer et contre la maladie d'Alzheimer. Donc, c'est vraiment une panoplie de fonctions. Mais en fait, c'est que ces fonctions-là, oui, la mélatonine y contribue, mais de façon physiologique. Donc, la mélatonine qu'on sécrète, nous, naturellement, mais pas nécessairement celle qui se vend en capsule.
Oui, parce que c'est pas tant prouvé, tous ces effets-là. Puis en plus, on se demande un petit peu comment elle agit et puis quelles sont les doses recommandées, puis est-ce qu'elle cible vraiment de façon adéquate chaque individu. Tout ça, ça semble un petit peu complexe.
Oui, c'est ça. C'est qu'en fait, on comprend pas encore tout à fait le mécanisme de la mélatonine. C'est qu'elle agit sur deux types de récepteurs, notamment le MT1 et MT2. Là, pour faire une histoire courte, c'est que le MT1 agit surtout sur le sommeil paradoxal, le MT2 agit sur le sommeil profond, mais nous, selon l'horloge biologique, l'horloge de la journée, on produit ces, quand je peux dire, on exprime ces récepteurs-là de quantités différentes et de façons différentes. Donc, selon le moment de la journée où est-ce qu'on prend la mélatonine, ça peut agir complètement différemment et même avoir l'effet inverse voulu.
Et dans cet article « Miracle en vue pour les insomniaques », vous avez parlé à différents experts, des médecins. Et bon, eux, certains d'entre eux émettent quand même des mises en garde, là, à savoir qu'il y a des limites à respecter, puis c'est pas pour tout le monde nécessairement.
Non, c'est ça. Mais en fait, les mises en garde, mais c'est surtout que on trouve beaucoup de publications sur la mélatonine, mais les études scientifiques solides sont vraiment peu nombreuses.
Oui.
Donc, c'est une efficacité qui est vraiment du cas par cas, donc selon le moment de la journée où est-ce qu'on le prend, selon notre type d'insomnie aussi, parce que bon, si on a un trouble du cycle de veille-sommeil, ça pourrait peut-être fonctionner, mais si c'est une insomnie secondaire due à une maladie sous-jacente qu'on ignore, ça ne fonctionnera pas. Et puis, c'est ça, c'est que son action est de très courte durée et on ne connaît pas tous ses effets secondaires non plus. Donc, il pourrait y avoir des effets dépressifs chez les personnes âgées. On peut avoir des effets négatifs sur l'humeur, sur même la fertilité et d'autres systèmes hormonaux. Donc, on ne le sait pas.
Et l'automédication est vraiment à éviter là, dans
oui,
la prise de mélatonine.
Oui, pardon, c'est ça. C'est que les experts s'entendent là-dessus. C'est qu'il faut vraiment consulter, justement, pour parce que la dose aussi est très importante selon l'effet voulu, la dose, le moment. Et puis, c'est que si on a un véritable trouble du sommeil, bien, il y a peut-être d'autres façons aussi de procéder. Et puis, faut voir s'il y a autre chose que le trouble du sommeil.
Il est possible d'avoir une hygiène du sommeil, une bonne hygiène d'une autre façon.
Oui, tout à fait. Et puis, c'est simple. Donc, c'est la base, c'est-à-dire d'avoir un horaire de coucher régulier, éviter les stimulants comme la caféine, comme l'alcool, pas prendre des repas trop copieux près de l'heure du coucher, pas faire d'exercice intense non plus. Et surtout, ce qui semble être un peu le problème ces temps-ci de plusieurs, c'est d'essayer d'éviter les tablettes, ordinateurs, téléphones et tout ça dans la chambre à coucher.
Oui.
Alors, une fois qu'on a fait ça, je pense que souvent le problème d'insomnie, qui est souvent assez éphémère, là, donc se règle comme ça.
Oui, et on l'apprend dans votre article, il faut parfois savoir vivre avec notre insomnie et l'accepter. Ça peut arriver à tout le monde à certains moments de la vie.
Oui, c'est ça, c'est tout à fait normal, mais aujourd'hui, on a tellement tendance à vouloir tout régler tout de suite, donc il me faut une petite pilule pour ça, il faut que, bon, j'ai un petit bobo, il faut que ça règle, bon, comme le corps n'est pas une machine parfaite, et puis donc accepter ça, c'est déjà mieux, et puis ça va peut-être nous aider à dormir, justement.
Pour en savoir davantage, Miracle en vue pour les insomniaques, c'était dans la section pause santé du quotidien, ben, dans la presse plus, hein, finalement,
oui,
Sophie.
C'est ça.
Maintenant, quelque chose qui est complètement fascinant, extrêmement méconnu, les cafés mortels, c'est-à-dire se réunir autour d'un café, parler de la mort de façon très, très libre.
Oui.
Bon, les cafés mortels, en plus, ont une ampleur assez mondiale. Là, on en retrouve un peu partout.
Oui, c'est ça. Je regardais tout à l'heure avant, bon, parce que les chiffres montent à chaque semaine. Donc, ils sont rendus à 1134 cafés mortels qui ont été organisés dans le monde depuis septembre 2011. Donc, c'est vraiment phénoménal comme popularité. En fait, c'est ça, comme vous disiez, c'est de réunir des gens autour d'un café, devant des pâtisseries, tout ça, donc pour discuter de la mort sous toutes ses formes. Donc, il y a des gens endeuillés là-dedans, mais c'est vraiment pas une thérapie de groupe, c'est pas nécessairement conseillé pour les gens qui vivent un deuil récent ou problématique. Il y a des gens qui assistent à ça qui sont... Il y a des médiums, il y a des intervenants en soins palliatifs, il y a des intéressés à la thanatologie, il y a des curieux. Donc, c'est vraiment... Il y a des philosophes et tout ça. Donc, c'est vraiment très diversifié.
Et c'est pas nécessairement encadré. Il y en a 12 à Montréal depuis 2013 quand même.
Il y en a eu 13 maintenant.
Il y en a 13 maintenant. Ben oui, ça arrête pas d'augmenter. je dis pas nécessairement encadré parce que vous avez parlé avec Josée Jacques dans le cadre de cet article, qui est auteur et psychologue, et elle disait, oui, OK, ça a du bon, mais par exemple, une mère qui viendrait de perdre ses enfants et qui serait en face d'un philosophe là, qui a tout à fait une autre perception, peut-être plus vague ou bon, l'emprise serait pas la même du tout et... Bon, peut-être que ça pourrait être problématique pour cette dame-là. Elle ne se sentirait pas entendue ou dirigée de façon adéquate. Donc, il y a quand même un bémol et je pense qu'il faut diriger les gens vers les spécialistes adéquats là, dans le cas de deuil, de grand, grand deuil.
Oui, oui, c'est ça, tout à fait. Parce que c'est ça, même si on vit pas un deuil récent ou même si on croit avoir fait la paix et tout ça. Donc, moi, quand je suis allée, il y a certaines personnes qui étaient là qui parlaient de deuil vécu il y a 35-40 ans et puis ils étaient vraiment sous le coup de l'émotion. Alors, c'est de savoir comment est-ce que la personne est outillée pour aider ces personnes-là. Et puis, donc, c'est vraiment, c'est ça, c'était son petit bémol. Donc, quoi faire s'il arrive une situation d'urgence? La dame qui anime ça a toujours des cartes d'affaires avec elle pour suggérer des personnes
ressources
en santé. Oui, c'est ça. Donc, mais faut y aller, faut être prêt à entendre parler de choses qui remuent un peu. Là.
Mais c'est une façon de parler de la mort sans tabou. Pour terminer, Sophie Allard, c'est le Marathon de Montréal. Dimanche, il y aura plusieurs milliers de coureurs sur le pont Jacques-Cartier. Vous qui êtes l'auteur du livre La course à pied au féminin, vous y serez?
Non. Pas cette année. Peut-être comme spectatrice, je connais des gens qui y vont, donc j'encouragerai sur le long du parcours.
Pour encourager les
oui,
gens. Sophie Allard, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes journaliste pour le quotidien La Presse. On se reparle dans un mois.
Merci beaucoup.
Au revoir. Eh bien, c'était Marianne Paquette et Martin Dupuis. Merci beaucoup d'avoir été là. Je vous rappelle que vous pouvez nous suivre au canalm.org. On est également présent sur Facebook et Twitter. Eh bien, on sera là demain pour continuer à vous parler de santé. D'ici là, je vous embrasse. Et portez-vous bien. Bye bye.